Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, c'est votre magazine inclusif de toute la scène française, c'est votre rendez-vous quotidien avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. Et en cette veille de week-end, direction les clubs, direction les discothèques, même à la maison, avec du son qui fait danser. Ce soir, nos invités sont Yann Wagner et David Blow. Yann Wagner, ex-fan des 80s, signe son troisième album, Couleur Chaos, un tournant pop et français pour cet auteur-compositeur-interprète qui a illuminé le dernier printemps de Bourges avec la création de Glory Dummy, un spectacle pour fêter le 25e anniversaire du premier album de Portishead, le groupe pop électromythique des années 90. À ses côtés, David Blow refait 50 ans de musique électronique, de house en BD, des clubs gays de Manhattan au Daft Punk, c'est le chant de la machine, un album culte réédité plusieurs fois, signé par un homme tout aussi culte, Radio Nova, c'est lui, et il est présent dans le film Eden, le film de Myans and Love. On sera au téléphone avec Gilbert, un prénom qui résonne sur la scène électro-française depuis plus de 25 ans. C'est celui du boss du label Versatile. Il sort enfin son premier album solo. On danse comme des fous. Marion Guilbeault est sur le coup. Alors côté club, c'est ouvert.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Yann Wagner, David Blow, d'abord j'imagine que vous vous connaissez, vous avez en commun quand même pas mal de choses.
Ben on s'est vu à Radio Nova.
Il n'y a pas de problème.
Mais là, je ne l'ai pas reconnu, il était masqué. Alors, évidemment,
moi, c'est la moustache qui m'a...
qui t'a interpellé.
Il n'y avait pas de moustache avant? Ah oui, mais sous le masque, ça ne se voyait pas.
Barbe, moustache, un berne. Ouais. Le bien, c'est qu'on peut tourner.
Exactement. Vous connaissez depuis pas mal de temps, vous avez suivi le parcours, vous connaissez le parcours de l'un comme de l'autre.
Oui, bien sûr. Enfin, sur, notamment ce livre.
Hein, ah bah le livre Le Chant de la Machine, qui est un livre culte depuis le début des années 2000, même s'il a été écrit en 96, mais on parlera tout ça tout à l'heure. Yann Wagner, c'est le troisième album, auteur, compositeur, interprète, la voix grave, crooner, avec même parfois des accents à la Lee Hazelwood, un son absolument hanté par les 80s, plus Kraftwerk, New Order que Gold quand même, réalisateur aussi pour l'album de Calypso Valois, entre autres. Vous avez travaillé et chanté avec Étienne Dao, j'arrête là. David Blow, pilier de Radio Nova, cofondateur des soirées Respect. Vous connaissiez Yann Wagner pour quelle raison?
Parce que j'écoute tout ce qui sort. Enfin là, le dernier album, là il vient de me le donner. On le
peut. Bah oui, il sort aujourd'hui même.
Voilà, bon, tout va bien. Mais parce que je suis l'actualité de tous les artistes. J'essaye en tout cas en France, et qui est effectivement avec une voix réelle. Vous avez souligné qui est celle de Yann et des influences très 80s. Mais bon, je pense que si on te limite qu'aux 80s, ça doit t'énerver au bout d'un moment. Donc
un petit peu, mais ça dépend. Ça dépend comment c'est dit.
Bon, alors on va dire
c'est bien dit.
Un esprit new wave quand même déjà à la base quand même.
Oui, on peut, pourquoi pas. Ouais.
Vous avez aussi en commun donc l'histoire des clubs et des discothèques. Bah, vous, à travers ce livre dont on va parler, Le Chant de la Machine, et vous parce que vous aviez fait une thèse sur le sujet, une thèse en histoire sur l'histoire des clubs et des discothèques.
Oui, voilà, la réalité c'est une thèse inachevée.
Fini,
non, j'ai jamais pu terminer. Hein. J'ai fait 2 ans. Après, il fallait bien manger. Hein. J'étais pas agrégé, donc j'avais pas de financement. J'ai eu un financement sur 1 an, voilà, quelque chose comme ça. Mais j'ai beaucoup de matériaux qui dorment dans un placard. Peut-être faire quelque chose avec ça.
Parce qu'il y avait rien. Vous avez entrepris à quelle époque?
C'était d'abord des masters. J'ai fait 2 masters sur ce sujet.
Ah ouais.
Et ensuite, c'était vraiment préparatoire à la thèse. Je me rappelle bien, ça devait être entre 2004 et 2008, un truc comme ça. Il y avait rien. D'ailleurs, c'est intéressant. Moi, je suis très content de rencontrer David, enfin, et de pouvoir parler du Chant de la Machine, parce que c'était justement dans ma bibliographie un des seuls livres français sur la France, mis à part 2-3 bouquins de sociaux ou d'anthropologie, des choses assez, d'ailleurs, qui étaient assez ringardes à l'époque déjà, où on parlait de tribus, tout un tas de choses qui sont aujourd'hui, je pense, on est un peu passé à autre chose, mais voilà, ça dit le certain retard que l'académie avait sur ce genre de sujet, de culture populaire, vraiment. Donc, il y avait énormément de livres anglo-saxon, mais presque rien en France. Donc voilà, j'avais intégré Le Chant de la Machine à la bibliographie. C'était vraiment quelque chose de... Très peu de témoignages. C'était un des seuls témoignages, en fait, qu'on pouvait trouver.
D'ailleurs, comment vous vous êtes renseigné? J'imagine.
Bah, c'est vrai que parce que quand on a commencé le chant de la machine, Internet était balbutiant et il y a plein de personnages qu'on a inventés. Enfin, je veux dire, on parle de David Mancuso, qui est le pionnier des DJ. On n'avait même pas de photos de lui. Les compiles n'étaient pas ressortis. Je l'ai connu après. Ça nous faisait rire. Ou alors Tom Moulton. Le seul truc qu'on disait, qu'un des types qui a inventé le remix, c'est qu'il ressemble au Cowboy Marlboro. Donc, on s'est amusé à dessiner
de cette façon-là.
Et je lui ai parlé récemment. Il a plus de 80 ans. Auprès sur Facebook, il était là. Il était explosé. Excusez-moi l'expression sur Facebook. Enfin, il rigole. Ça le faisait tellement rire de lui dire qu'on lui a envoyé la photo. Il ressemble un peu, d'ailleurs, depuis j'ai vu des photos. Bah, on a travaillé en parlant, en se renseignant. Il y avait des livres, alors, sur la presse anglo-saxonne.
Anglo-saxonne, en France, rien.
En France, rien. Mais même, se dit, les bouquins anglo-saxons, à la fin des années 90, ils commencent à arriver. Ce qu'il y a, c'est la presse, ID, The Face, enfin, les Days on Confuse, tous ces magazines, quand même, racontaient des histoires au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on a été passionnés, d'ailleurs, par ce qui se passait à Chicago, à New York, qu'on connaissait pas du tout. Nous, on aimait cette musique, mais on connaissait pas les origines et les histoires étaient fascinantes. Quant à la France, bon, je pense qu'il y a une ou deux rencontres importantes, une fondamentale. On raconte son parcours à lui, c'est Didier Lestrade, qui est le fondateur d'Act Up France, mais qui était aussi le premier journaliste vraiment à parler de house et de techno en France et qui a connu le Palace et compagnie. Et vu sous son angle, ça nous a permis de raconter, parce que c'était un des gros clubs importants, c'est le Palace dans la culture club française. Donc ça, on, grâce au témoignage de Didier. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un livre. Je ne sais même pas s'il y a un livre. Bon, aujourd'hui, il y en a.
Il y a des choses quand même aujourd'hui.
Mais bien sûr, il y en a. Et puis même des fois, il y a overdose d'ailleurs sur le sujet. Mais pour autant, des trucs qui font référence, parce que nous, on n'aborde que quelques petites choses. Je ne sais même pas s'il y a un livre qui réfère comme ça toute la culture club française.
Sur la France, je crois toujours pas. Ou alors il y a des livres de journalistes, et c'est très axé sur le Palace, quoi. Moi, je sais que j'avais trouvé plusieurs livres, justement, de témoignages sur le Palace. Donc, on est resté dans l'histoire légende, un peu. C'est-à-dire c'est très difficile de savoir ce qui était vrai, ce qui était juste simplement une sorte de rumeur qui sont.
Bien sûr.
Sont colportées sur des dizaines d'années.
Ça, même, en histoire, bonne chance, hein.
Oui.
Parce que moi, je rebondis là-dessus, parce que même l'origine du mot house music, on sait pas. Et c'est vrai qu'à la limite, quelque chose qui s'est fait à 3h du matin en club, allez vous en rappeler, ne serait-ce que le lendemain à 10h du mat, il y aura déjà 3 versions différentes de ce qui s'est dit la veille.
Donc. Non, mais après, peut-être le but de l'histoire, c'est pas forcément la vérité, c'est justement étudier ces rumeurs-là peuvent être un objet aussi très intéressant, quoi, comment un phénomène est perçu. Mais oui, par exemple, c'est que quand on lit des interviews de Régine, par exemple, elle a tout inventé.
Elle a tout inventé.
Ça, c'est intéressant. C'est intéressant comme. Comme témoignage, voilà.
Comme fiction aussi. Ouais.
Bah, chacun voit midi à sa porte. Hein. Quand on voit les bouquins des New Yorkais, alors eux, ils ont vraiment tout inventé, quoi. Donc c'est vraiment chacun voit le bout de sa porte. C'est assez marrant. Il faut relier tout ça après.
Ouais.
Alors je vais vous faire écouter quelques sons pour vous situer l'un et l'autre. Le premier. Est-ce que c'est David Blow?
Ah non.
C'est Ian Wagner.
Ah oui, d'accord.
Okay. Oui, mais c'est Ian Wagner sous une autre identité, en fait.
Oui, c'est mon projet The Populist, d'accord. Qui est vraiment plus l'alias instrumental, plus dédié au club, même si ce morceau-là n'est pas très clubby.
Et il sonne bien.
Ouais, ouais, soft power. Pour quelle raison avoir créé cet alias, justement, The Populist?
C'était au moment du deuxième disque de Ian Wagner, donc, ouais. qui sonnait vraiment plus pop.
2017.
Voilà, j'avais en fait... je me sentais de plus en plus chanteur et je voulais entourer la voix de quelque chose d'un peu moins électronique. Donc je pense que c'est par clarté avec moi-même. J'avais besoin d'avoir ces deux facettes de la musique pour moi, le club et puis la pop, quoi. C'est deux choses très importantes pour moi. Je pense que c'était simplement par hygiène de travail. J'avais besoin de séparer deux entités comme ça.
Une hygiène mentale.
Voilà, comme deux terrains de jeu un peu. Ouais.
Deuxième titre. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Bon, les Beatles, mais ça vous concerne de plein fouet, David Blow.
Ah, parce que j'ai écrit une autre bande dessinée il y a une dizaine d'années qui s'appelle Yesterday, qui raconte l'histoire de quelqu'un qui se retrouve dans un monde parallèle dans lequel les Beatles n'ont jamais existé, qui devient la plus grande pop star de tous les temps en s'appropriant les morceaux des Beatles et qui se confesse publiquement sur son crime. Si ça rappelle quelque chose à quelqu'un.
Mais quand même, la BD avait fonctionné. Et vous, quel est votre lien justement avec les Beatles pour avoir créé cette fiction?
En fait, pas grand chose.
Bah, je me suis demandé en regardant un petit peu.
Non, c'est que moi, l'idée c'était de ce type qui connaît les succès des gens et qui essayent de... Enfin, je me suis posé la question sur les Beatles, sur Gainsbourg, je voulais le faire à la française. En fait, c'est pas un lien. Je cherchais l'artiste qui pouvait le mieux correspondre à l'histoire que j'avais envie de raconter. Or, si on était propulsé dans le temps ou s'il se réveillait dans un monde parallèle, même si la musique des Beatles, c'est dur à faire, je pense qu'on arriverait tous à chantonner Yesterday et à arriver. C'est la base de mon histoire. C'est que le mec, pour draguer une meuf, il va chanter Yesterday et sans vouloir le voler. Et finalement, il se retrouve à le voler aux gens qui ne l'ont pas encore écrit dans la temporalité de mon histoire. Mais parce que c'est aux Beatles, je pense que les Stones, c'est plus compliqué. Par exemple, il faudrait vraiment retrouver le groove, le riff pour arriver à recréer les Stones. Je dis pas que les Beatles, c'est facile. On a un musicien avec nous. C'est sûrement pas si facile. Mais je pense quand même qu'on arriverait tous à chantonner la
côté de la mélodie.
La mélodie.
Les Beatles, c'était du côté de la mélodie.
Bah,
les Stones, c'était autre chose.
Et je pense que si demain, on se réveillait dans, parce que dans mon alternatif, il n'y a plus Internet, il n'y a plus rien. Ça n'existe plus. Je pense qu'on arriverait plus à recréer les Beatles que les Beach Boys ou les Rolling Stones. Parce que tu es d'accord en tant que musicien?
Peut-être, ouais, sans doute. Après, il y a quand même toute l'aspect production des Beatles qui est incroyable, qui est très important.
Sûr, évidemment.
Mais oui, il y a quelque chose d'un peu plus universel, peut-être, chez les Beatles. Un truc, ouais.
Troisième titre, c'est pour l'ADN de l'un d'entre vous. Yann Wagner, c'est pour vous?
Ah bah oui, bien sûr.
C'est
Bootsy Collins.
Exactement. À quel âge vous écoutiez ça?
Ça, j'écoutais vraiment, ça correspond vraiment, c'est vraiment de la musique si vous voulez, ça...
C'est l'inconscient de votre musique, en fait, j'ai l'impression.
Ouais, c'est pas mal de le formuler comme ça. En tout cas, c'est vraiment ce qui a cristallisé la fondation de mon tout premier groupe de collège, quoi. Voilà. C'est vraiment le sujet sur lequel on était tous d'accord. On voulait faire de la musique ensemble. Et, on était tous d'accord sur ça. Sur le P-Funk, tout ça. Donc, on essayait de le faire à notre façon. C'était catastrophique. Mais oui, c'est une musique qui m'accompagne sans cesse. C'est-à-dire que j'ai pu me lasser. J'ai eu des périodes jungle, tout ça. Ça, j'ai du mal à l'écouter, par exemple. Mais ça, ça reste toujours.
Et est-ce que ça revient dans le dernier album?
Je pense, ouais.
De façon...
C'est très discret.
Très discret, mais il y a présent.
Certains petits éléments, peut-être, de synthé, certains petits trucs. Je pense, ouais, j'ai essayé, en tout cas, de mettre un peu de funk. Mais c'est peut-être plus du funk digital qu'il y a dans mon album. Pas, un peu moins, le P-Funk, mais sans doute, ouais. Ouais.
Quatrième titre. J'imagine David Blow qu'on doit vous faire le coup à chaque fois. Vous voyez ce que c'est, Yann Wagner?
J'avoue que je sèche.
Eh ben c'est lui.
J'ai
pas la voix.
Non, pas la voix.
Non.
Non, j'ai fait. Oui, ça. Le groupe s'appelait Showgirls.
Exactement.
Voilà. Et on s'est amusé à faire de la musique avec Estelle Chardac,
ouais,
qui chante.
Vois, alors,
Lionel Catalan FC, qui faisait la musique. Ça a jamais été hyper concret dans ma tête. Hein. C'était plus pour m'amuser, expérimenter des choses. Puis quand le groupe s'est arrêté, j'ai jamais démarché la moindre maison de disques pendant qu'il existait. Puis à un moment, on a fait on arrête. Et j'avais entendu que Bertrand Burgala, le boss de Tricatel, elle aimait ce morceau. Puis au moment où on a vraiment arrêté, mais genre 6 mois après, je me dis, oh, c'est con quand même. Et j'appelle Bertrand et je lui fais, tu veux signer un groupe mort?
Il a fait, ouais, bah, ça, c'est pour lui. Ça.
Bah oui, grave, il a fait, ah, bah oui, j'ai jamais vendu de disque, moi. Donc voilà.
C'est
donc,
parfait. Donc, au moins, il n'y aura pas d'excuses.
Cette histoire s'est arrêtée, mais il y a un EP qui
existe. Oui, un EP et plusieurs titres.
Ouais, j'en suis effectivement très content et très fier. C'est rare qu'on me le ressorte. Les gens savent pas que j'ai fait. Mais allez écouter Showgirls Fooling Around sur Tricatel, ça vaut le coup.
Ouais, je m'en souviens maintenant.
Merci. David Blow, on vous a missionné programmateur sur France Inter. On vous a demandé de choisir un titre dans la playlist de France Inter et un titre français. Mm-hmm. Vous, l'homme de radio de Radio Nova, un titre français, ça vous allait ou vous avez eu du mal?
J'ai eu du mal. Moi, j'ai du mal avec le français. Je suis désolé. Je suis d'une génération, non, mais ça arrive sur Yann ou sur d'autres. J'ai du mal avec la langue française. Et voilà, j'ai grandi dans la France des années 80, complètement licence 4, bien boire un petit coup à la maison. Et
ça vous a traumatisé?
Totalement traumatisé. Encore heureux qu'il y avait des Alain Bachung, des Etienne Daho, des Rita Mitsouko, mais des fois, on revisite les années 80 en sortant des trucs obscurs que les gens ne croient pas qu'on écoutait ça à la radio. La radio, c'était le top 50. Au mieux, au pire, c'était RTL avec Michel Sardou et c'était ça qu'on entendait. Il y avait pas Internet à l'époque, très peu de chaînes de télé. Donc tous les gens, et encore pire que moi, c'est mes grands frères ou les gens plus âgés que moi qui ont grandi dans les années 70. Alors eux, c'est vraiment vadé rétro, la pop française. C'est... Donc beaucoup de mal avec la langue française. D'ailleurs, c'est pour ça que la French Touch peut-être m'a plu ou la musique électronique, même les musique de film, il n'y a pas de paroles. Déjà, je me sens mieux quand il n'y a pas de paroles. Alors en plus, si elles sont en français, ça me ramène vraiment sur terre. Quoi.
Alors vous avez quand même trouvé votre bonheur avec Damso Morose, même si Morose est presque un commentaire de ce que vous venez de dire, de votre lien avec le français.
Non, mais j'avais mis Damso, Bonnie Banane, la femme, bien sûr. Il y en a plein que j'apprécie. Bah, Damso, il y a une puissance de personnage et de lyrics. Il y a une force là-dedans. J'approuve pas tout. D'ailleurs, des fois, on est très généreux avec ce genre d'artiste. On les laisse tout passer. Et puis les paroles sont quand même extrêmement corsées. Mais ouais, l'univers et la force force du bonhomme est assez impressionnante. Les paroles valent vraiment le détour. Il va très très loin dans ses introspections personnelles. C'est très très étonnant.
Une programmation de David Blow.
Je suis tellement loin. Je suis parti pour quelques heures. Trop de stress, pas d'émotion. Agression à chaque réflexion, back. Oppression, attaque, restriction, black. Tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le dire en face. Pas le temps. Je te demande un minimum de respect. Je calme mes nerfs, je vois VER, tango. Je balance des bras sur une compo. Je calme mes nerfs, je vois VER, tango. Je balance des bras sur une compo. Moro. Silicone dans la fesse, une icône dans la presse, une miche dans la tête, jamais seul tu t'en sortiras. Il reste une place dans le corps d'hier. J'écris sur tout ce que je pense et voir. J'écris sur tout et son coquillard. Et sur ce que je risque d'apercevoir. J'aime quand je te perds, regarde d'avance. Quand c'est ta chair, chante ta fragrance. Tous ces sévères, la menthe douce à l'ammoniaque. T'aimes le bandit que je suis. T'aimes la vue quand tu me suis. Tu comptes sur mes économies. T'es ma que pour aujourd'hui. Tapis, j'ai fait doubler la mise de peur. Bientôt j'abandonne le vice, c'est pas loin. J'prends vice et même. J'calme mes nerfs, j'vois VER. J'balance des bras sur une compo. J'calme mes nerfs, j'en vais tango. J'balance des bras sur une compo. Moro.
David Blow, Yann Wagner sont nos invités côté club ce soir. Yann Wagner, troisième album en un peu moins de 10 ans. Pour refaire l'histoire, on va mesurer l'évolution de votre son. On repart en 2012. Premier album, 48 Hours. Un son travaillé avec Arnaud Robotini à l'époque. Autant dire que j'adorais ce premier album qui me rappelait, qui me faisait hanter les années 80 que j'avais adoré, New Order, Kraftwerk et compagnie. David Blow, un mot sur le son travaillé à ce moment-là?
Ah bah là, là oui, on est clairement dans des... On est moins P-Funk, on est plus proche de New Order que de la P-Funk.
Ah, c'est complètement,
clair,
oui, bien sûr.
C'est clair qu'on replonge dans le jukebox New Wave années 80. Quoique, à chaque fois, les musiciens te disent quand même que ça sonne jamais pareil.
Ah mais ça sonnait pas pareil.
Donc,
mais il y avait vraiment une référence.
Bien sûr, bien sûr.
On part en 2017, c'est le deuxième album avec ce titre, Blacker. Premier virage, Yann Wagner devient véritablement chanteur. C'est Jean-Louis Plérot qui travaillé pour Bachung et pour Dao qui est au mixage. Ouais. Donc c'était le moyen de sortir de la techno.
Oui, un petit peu, ouais.
Un peu
l'idée, c'était de travailler avec quelqu'un qui vient pas du tout du même monde que moi. Ouais.
L'album est en anglais, ça faisait plaisir à David Blow à l'époque. Pour le troisième album qu'on va écouter tout de suite, vous êtes passé au français, enfin une majorité de titres en français, mm-hmm. Vous êtes décomplexé, c'est Dao qui vous dit « Allez, du côté du français ». Pour quelle raison ?
Alors, c'est lui et quelques autres, hein, mais c'est vrai que... Pourquoi lui m'a encouragé à faire ça ?
Ouais, ou même les autres ?
Je ne sais pas pourquoi on m'encourageait à faire ça. Peut-être c'était parfois pour pas les bonnes raisons. C'est-à-dire j'ai pu entendre « Allez, ça marchera mieux si tu fais ça ». Voilà,
bien
tout
sûr,
ça.
La pression de la production. Ouais.
Voilà, mais ça, c'était pas du tout la raison pour laquelle moi j'ai fait le virage. Le virage, je l'ai vraiment pas fait tout de suite d'ailleurs. Il a fallu quelques temps. J'ai travaillé un an en fait sur la voix pour garder un peu ma voix, pas changer.
Oui, c'est ça. Parce que quand on chante en anglais et quand on chante en français... J'imagine que
pareil.
La voix change.
Ouais, ouais. On évite tenter vers le murmure, vous voyez, à la française, là, voilà, qui, moi, m'ennuie. En tout cas, je voulais pas ça. Donc, ça a été pas mal de travail. Et puis ensuite, surtout, j'ai découvert le plaisir d'écrire en français, qui est vraiment une sorte de libération. On dit souvent que c'est intimidant, qu'on se met à nu, etc. Mais au contraire, j'ai l'impression d'ajouter des voiles devant moi, de pouvoir ajouter de la complexité à ce que je raconte. Et vraiment, c'était une sorte d'épiphanie, ça.
Il va falloir vous y faire, David Blow, avec ce titre Brexit qui ouvre l'album Couleur Chaos. Un extrait de l'album Couleur Chaos en français, plus pop, même raccord avec la pochette. Généralement, c'était plutôt dans les noirs et blancs, plutôt ténébreux. Cette fois-ci, vous êtes au bord d'une piscine. Qu'est-ce qui se passe ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout fout le camp.
Vous voulez dire un mot, David Blow, vous l'ayatollah de l'anglais, ou de l'instrumental sur le français,
non,
tenté par la mer.
Déjà,
Non, déjà, je veux dire que la musique, c'est vaste et qu'en France, on s'est bloqué sur l'idée de chanson, qui se convient un peu délirant, parce que ça ne comprend ni Debussy ni Daft Punk si on parle de chanson. Donc, la musique, c'est la musique. Je pense que tout le monde est d'accord, mmh. et que la chanson est une part de la musique. Et en France, avec la loi Quota, tout ça, on a vraiment insisté sur la chanson, qui est une forme de musique, comme, okay. comme d'autres. Bon. Ça, déjà. Après, sur les voix m'empêchent des fois de voyager. Là où une musique instrumentale vous permet une musique de film, ça, la voix vous ramène à une entité humaine que vous appréciez ou que vous appréciez pas, donc déjà voilà. Après sur l'anglais ou le français, moi ma petite théorie c'est que quand il y a eu d'abord on était en rejet de la de le langage français, ça je pense que c'est
pendant quelques temps,
voilà, pendant quelques temps, et quand il y a eu l'explosion French Touch, c'était soit l'instrumental, soit des groupes comme Phoenix qui miraculeusement, parce que jusque là c'était compliqué, arrivaient à chanter en anglais et ça se tenait. Mais c'est vrai que d'abord la French Touch c'est un peu tombé en niveau des ventes à l'international, et c'est vrai que pas mal d'artistes, je pense qu'il y a eu une vague où tout le monde a chanté en anglais à un moment parce que c'est un peu ça qu'il fallait faire.
Et puis des groupes depuis quelques années ont placer bah oui. le français au et centre voilà. du débat. Bah
peut-être ouais. parce que ils sont, Internet fait que les choses sont autrement, t'as peut-être plus besoin d'aller courtiser les anglo-saxons comme ça. Et d'un coup, on prend, et moi je préfère, alors pour le coup, j'adore le jeu de mots avec Brexit, enfin je trouve beaucoup plus drôle là le jeu, voilà. à partir du moment où on accepte ces règles du jeu, là je trouve ça beaucoup plus intéressant et je pense plus intime. Et c'était vachement bien ce que t'as dit, qu'en plus, qu'on finalement, on ne fait pas que livrer son intimité avec le français, on peut aussi mettre des voiles nouveaux. Bah voilà, là on rentre dans un jeu. Mais c'est de la chanson. La musique peut être ouverte sur d'autres pistes aussi.
Ah, complètement, oui, bien sûr.
Pas mal de changements aussi, puis vous avez déménagé à Marseille, c'est pour aller ouais. rejoindre Jules et compagnie.
Ah oui, bien sûr, j'adore le sang. Oui, enfin c'est mon épouse qui vient de là-bas, donc elle m'a dit après 10 ans de Paris, elle m'a dit
c'est fini.
Allons-y. Et je suis très heureux, moi ça fait voilà.
Vous avez trouvé quelle scène là-bas? Parce que vous avez.
Alors pas beaucoup de scènes parce,
ouais, parce qu'elle est marseillaise, elle est plutôt. En tout cas, il y a une grosse scène de hip-hop, hein, avec le succès qu'on connaît depuis quelques années.
Ouais, tout à fait, mais c'est vrai que moi je connais pas du tout cette scène-là. Je suis plus du côté vraiment électronique,
oui,
avec la Dame Noire, toute cette bande-là, qui sont des historiques, quoi, qui sont vraiment là depuis 20-25 ans. En ce moment, c'est en pleine redéfinition. C'est-à-dire que tout le Covid, etc., a vraiment
redéfini quelque chose.
C'est le gros point d'interrogation. Je sais pas ce qui va se passer. Si vous voulez, en ce moment, il y a que des trucs sur des rooftops ou sur des bateaux, qui sont vraiment donc des soirées pour les gens très fortunés. C'est tout ce que je vois pour l'instant. La musique, il faut que ce soit tropical house ou genre du disco un peu poirave. Pardon, excusez-moi, sur Radio France.
Vous pouvez y aller.
Et donc c'est vraiment un gros point d'interrogation je nourris beaucoup d'espoir là sur le redémarrage, voir ce qui va se passer. J'espère qu'il y aura des choses intéressantes.
Troisième album marqué par des événements, notamment la disparition de votre mère que vous évoquez sur un titre, hein, mm-hmm. Les ciels plus cléments, avec cette phrase, je vous cite, ça fait longtemps déjà que je pense à écrire ces paroles, pourtant ça sert à quoi? Ça revient presque à parler tout seul. Si t'aimais pas ça, peut-être que tu trouverais ça ridicule. Et un peu plus loin, sous des cieux plus cléments, je te donne rendez-vous, chère maman. Quelle place elle a eu dans votre parcours de musicien?
Alors déjà, les paroles comme ça sorties de la musique, je trouve ça toujours très cruel.
Mais c'est le texte.
Ouais, tout à
pur
fait.
Pur et dur.
Tout à fait. Non, c'est une chanson très premier degré. C'est la seule. Elle est venue vraiment sur la fin.
Et elle arrive en fin d'album. Non, juste après, il y a encore un instrumental.
Ouais, tout à fait. Alors, la place de ma mère est hyper importante parce qu'elle
dans votre construction de musicien.
Ah, c'est elle qui, je pense, a précipité le fait que je veuille faire de la musique puisqu'elle m'a offert une place de concert pour mes 13 ans. C'était un concert de Chemical Brothers au Bataclan. Voilà.
Ah oui, quand même.
Et c'était pour moi un coup
elle
de.
Elle prenait quoi, ta mère?
Elle était high on life.
Manifestement, oui.
Mais c'était un électrochoc, un vrai, quoi, voilà, de voir ça, de ressentir ça aussi, dans le corps, les basses, tout ça. Hein. Et puis c'était une grande fan de Bowie aussi, elle écoutait Bowie à la maison tout le temps, elle avait tous ses albums. Voilà. Donc je pense, c'est vraiment deux choses, donc je pense que le rôle de ma mère est très très important. Voilà, c'est pour ça que c'était bien de lui écrire un truc, même si ça l'aurait gêné, je crois. Hein.
Retour album avec ce titre qui est aussi celui du disque. Between you and the world, all they want is to mess you up and raise you 'cause it's all sad. Il y a les vertus morales qui deviennent tumorales. Le doigt sur la couture, scroll le vide abyssal. Satan pour les critiques, Satan pour l'Amérique. Passe-temps chimérique, la révolution en un seul clic. Sans débris parasites, je suis d'humeur locale. Dérive antalgique, passe le doigt sur le cristal. Mais quelle voix, une voix de chanteur, une voix de crooner, avec même un côté italo-disco, j'ai l'impression, dans
Après, ça me rappelle Andrea dans La Voix. Vous voyez ce que je veux dire? En parlant de disco pourrave.
Mais quel pas du mal de l'Italo Disco.
Ah, mais ah, j'adore. Ah. Ah, mais j'adore. Mais Andrea, c'était autre chose.
Ce côté borderline, justement, moi, je trouve ça super dans l'Italo Disco, dans le boogie aussi. Il y a toujours un truc très sur la corde là, enfin entre bon et mauvais, que j'adore. Je suis très content que vous passiez ce titre là. Parce que c'est vraiment une dimension importante pour moi, cette dimension funky. Et, voilà, c'est souvent un peu passé sous silence. Je suis hyper content que vous le passiez. C'est mon préféré.
Voilà. Ah, mais c'est parfait. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite, je vous propose d'écouter The Liminianas. J'imagine que ça vous dit quelque chose. Mm-hmm. Radio Nova aussi.
Radio Nova aussi.
Liminianas et Laurent Garnier seront sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique le 14 septembre prochain pour présenter leur album commun Da Pellicula. Et Squid complétera l'affiche.
Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma. Il va au lycée, mais il déteste ça.
Sur France Inter.
Gilbert, hein, pas Gilbert Montagnier, Gilbert, vous connaissez l'un et l'autre, Yann Wagner, David Blow?
Bien sûr, moi je le connais, j'ai commencé avec lui, hein, Radio Nova, donc c'est un frère, DJ Gilbert.
Ça fait 25 ans qu'il tient les rênes du label Versatile qui héberge et produit Étienne Jomet, Zombie Zombie, Joachim Acid Arabe, entre autres. Gilbert, c'est aussi la moitié du duo Château Flight. Il vient de publier On danse comme des fous, premier album solo, une musique de club intimiste et psychédélique. Marion Guilbeault n'a pas résisté.
Bonsoir Gilbert, bienvenue dans Côté Club.
Bonsoir.
Vous avez énormément œuvré à l'avènement de la musique électronique en France. Et aujourd'hui, après 25 ans d'activisme, vous publiez votre premier album solo. Alors qu'est-ce qui freinait jusque-là?
Justement, 25 ans, ça faisait beaucoup. Je me suis dit peut-être que c'était le moment de... peut-être le moment de concrétiser quelque chose de personnel. Le fait de venir à Amsterdam à un moment donné, de me retrouver dans mon propre studio seul et un peu isolé, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps en fait. Bah du coup, ça m'a permis de travailler en fait un peu plus dans le détail. Et donc sur une période de 2-3 ans, j'ai fait beaucoup de morceaux. Et puis voilà, un jour, c'est en fait cette sélection s'est un peu opérée d'elle-même.
Alors c'est un disque très éclaté hein, qui a été enregistré, on imagine, pendant les différents confinements. Un disque qui dissout les frontières entre l'électronica, le psychédélisme, la drum and bass. C'est pas vraiment un disque de club, hein, c'est pas non plus un disque de pure ambiante. Comment vous l'avez imaginé?
Bah, je l'ai imaginé en fait morceau par morceau et en fait je pense que ça devait un peu travailler dans mon esprit un peu en tâche de fond. Un matin, je me suis levé. Cette sélection s'est vraiment imposée d'elle-même et j'ai plus privilégié une impression d'écoute un peu globale sur la longueur qu'un showcase. Je me suis pas dit bon, je vais faire un morceau drum and bass, un morceau techno, un morceau. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que le déliant, le roulé, le voilà, la musique, une fois qu'on rentre dedans, on y soit bien et qu'on voyage un peu à l'intérieur, voilà, tout simplement.
Et c'est un disque aussi que je trouve très marqué par le psychédélisme. Et je me demandais, est-ce que c'est dû à votre installation à Amsterdam?
Bah oui, donc ça fait longtemps que j'avais un peu essayé quand même. Mais non, je pense que c'est un peu une variante qu'on a dans le label, en fait. Je pense même des artistes comme IQ ou Étienne Jomet. Voilà, on se situe tous un peu dans cette veine un peu psyché, on va dire, ouais.
Je voudrais aussi dire un mot sur le titre de ce disque, « On danse comme des fous ». Alors, il est arrivé comment, ce titre? C'est suite au confinement, à la fermeture des clubs? Est-ce qu'il faut y voir de l'ironie ou alors plutôt la volonté de tenir bon?
Bah, il y a un peu d'ironie, évidemment. Enfin, où on danse, vers où on danse, il y a aussi un peu de ça. C'est un côté un peu fou dans ce qu'on vit. Je voulais que ça reflète aussi ce moment-là, qui est un peu fou quelque part.
Par rapport à la pochette de l'album, il paraît qu'elle serait inspirée de la première rave de l'histoire. Alors, elle est datée de 1518 à Strasbourg.
Illustration, non, en fait, c'est c'est l'illustration d'un livre qui s'appelle Tarantella.
Ouais.
C'est un livre d'Alessi dell'Umbria qui raconte en fait en Italie cette espèce d'épidémie de danse qui a sévi à cette époque-là. Voilà, ça me paraissait amusant. Puis moi, c'est aussi une référence où quand on est DJ, souvent il y a une personne qui est devant nous et qu'on choisit pour un peu comme référent par rapport à ce qu'on joue. Si elle est toujours là, si elle est plus là, et c'est toujours des personnes qui ont des mouvements de danse assez curieux. Donc c'est aussi une petite manière de rendre hommage à ces personnes qui sont très inspirantes.
Gilbert, en 2021, les Daft Punk ont annoncé leur séparation. Boombas sort non pas un album, mais un livre. En juin, vous avez fêté les 25 ans de votre label Versatile. Est-ce que vous sentez, vous aussi, que c'est la fin d'une époque, que c'est la fin d'un cycle?
Ah bah ça, c'est clairement la fin d'un cycle. Heureusement que ce soit pas un cycle qui se continuerait perpétuellement. Et puis moi, je suis content d'avoir fait partie de ce cycle qui s'achève. Donc, puis même après 25 ans, moi-même, à vrai dire, je suis le premier surpris d'être presque de vous parler maintenant. Quoi.
D'être encore là.
Bah ouais, quelque part, parce que. Ouais, on est quand même en assez bonne santé, on va dire. Quoi.
Ouais. Elles vont être de quel ordre, les prochaines propositions de Versatile? J'ai vu sur votre Instagram qu'il y avait un projet de disque avec Judah Varsky.
Alors exactement, ça sera l'année prochaine. Effectivement, moi en fait j'ai toujours fait des tentatives, j'ai toujours aimé travailler avec des gens qui écrivent des textes. Et, donc j'avais fait un disque avec Nicolas Kerk sous le nom d'Aladine, j'avais fait un disque avec Lisa Liloun. Il y a quelques années, et en fait, Mathieu, moi j'aime vraiment bien ses textes, et j'aime vraiment bien la personne, et je me suis dit un jour, ce serait vraiment, vraiment bien d'essayer quelque chose. Donc voilà, donc on l'a fait, sans trop savoir, lui et moi d'ailleurs, où on allait. Et donc on s'est vu une semaine, en une semaine on a enregistré 8 morceaux, quoi. Donc du coup, c'est pop, et en même temps c'est assez électronique, on va dire. Voilà.
Merci beaucoup Gilbert, on va danser comme des fous, plutôt planer comme des malades, tout de suite, dans Côté Club, avec un titre, je l'ai choisi, parce que vraiment c'est un de mes titres préférés sur le disque, mais alors je vais vous laisser le lancer, ce titre.
Ok, son titre. Donc c'est avec Cosmic Neyman, qui chante en russe, et donc je vais essayer, « Khani Pati Zmaïs ». C'était convaincant.
C'était parfait. Merci beaucoup Gilbert. À bientôt.
Merci à vous.
Stuart. Я не знаю. Откуда это? Я не знаю. Я тебе говорю. Я не знаю. Чего не знаю.
хочу знать все это. Я не хочу знать, я знаю только одно. Пока.
David Blow, Yann Wagner, peut-être une réaction à ce que disait tout à l'heure Gilbert sur la fin des Daft Punk, la fin d'une époque, de passer la main. Il s'étonne même, hein, c'est ce qu'il racontait, d'être encore là. Comment vous regardez cette histoire? Alors vous, alors même que vous, vous signiez cette histoire, le chant de la machine, avec bien sûr l'épisode de la French Touch.
Mais j'en parle un peu dans la préface à la fin, mais c'est
dans ça. La post-face.
Dans la postface, exactement, puisque la bande dessinée vient de ressortir, et comme elle était sortie aux États-Unis, quand elle est sortie aux États-Unis, ils m'ont demandé, la BD date d'il y a 20 ans, ils m'ont demandé aux États-Unis d'écrire un texte un peu sur les 20 dernières années. Bon, c'est des longues théories. Il y a aussi Simon Reynolds, l'a pas mal développé dans son livre Rétromania, si je dis pas, j'ai un train.
C'est ça.
Que j'ai jamais lu par ailleurs, mais on m'a dit que mon texte s'inspire, qui est proche, mais je l'ai pas lu. Bref, je sais pas, il y a eu un truc au début des années. Nous, c'est vrai, quand on a grandi dans les années 80-90, on était fascinés, notamment quand les technos là sont arrivés, par la nouveauté. On rejetait tout ce qui était le passé, parce que c'était tellement neuf qu'on avait envie d'entendre tout le temps ces nouveaux sons. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose au début des années 2000, mais bon, ça a été éphémère, mais un retour du rock qui était pas du tout prévisible. Et puis je pense qu'Internet a vraiment changé la donne et qu'il y a un besoin d'incurgiter les choses, il y a une facilité pour se pencher vers le passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas un revival, il y a 50 revivals en même temps. Si vous voulez écouter des années 80, vous en avez, de la boogie disco des années 70, vous en avez, je vois des jeunes amateurs de jazz, je me suis dit, mais ils vont au New Morning tous les soirs écouter du jazz, chose qui n'était pas possible avant. Et ça c'est assez... C'est pas que rétro, c'est juste peut-être qu'on a maintenant, ça va être nouveau avec Internet, un bagage permanent qui va être en nous et qui fait que pour les puiser et découvrir la musique, on peut s'amuser avec énormément de choses. Est-ce qu'on avance autant que... Il y a des théories aussi, hein, les dernières machines, enfin le cap à la machine qui est un truc depuis les années 50 mais jusqu'aux années 90 pour arriver à la techno. On va où après? Les machines ont été inventées, je sais pas, le musicien peut parler, mais on va où après? Ça a été une sacrée révolution et peut-être qu'elle était après 2000 et post 2000. On se projetait dans les années 80-90, on a grandi avec l'an 2000 qui était un espèce de futur. C'est quoi le futur aujourd'hui? Même 2099, on peut pas fixer une date comme ça.
Yann Wagner, peut-être un commentaire? Parce que justement, les machines, vous en êtes un spécialiste, ouais.
Ouais, les technologies, elles sont hyper importantes. Moi, j'ai commencé un peu fétichiste avec les vieux synthés, tout ça. Et maintenant, en fait, j'en suis vraiment revenu en voyant qu'il y a vraiment des nouvelles façons de faire. C'est-à-dire que j'ai pu côtoyer les petits gars de Bagarre, par exemple, pour qui j'ai fait un mix et ensuite ils m'avaient demandé de faire des trucs et tout ça. Et j'ai vu leur façon de travailler, par exemple. C'est presque diamétralement opposé à ma manière de faire, mais donc c'est vraiment une manière nouvelle. Et eux, ils sont totalement décomplexés, quoi. Je pense que par rapport à cette histoire de temporalité, moi, je pense que la temporalité est totalement chamboulée.
Ils s'en fichent.
Maintenant, il y a des trucs super bien qui sortent aujourd'hui, des trucs qui sont sortis il y a 50 ans, pourquoi pas. C'est pour ça que parfois, quand on me dit que je fais de la musique des années 80, je trouve ça presque un non-sens aujourd'hui, puisque c'est-à-dire que j'ai l'impression effectivement toutes les décennies sont accessibles et sont à peu près au même niveau.
Ça doit être que des gens qui ont vécu les années 80 qui doivent te dire ça, mais quelqu'un de jeune ne va jamais te dire tu fais de la musique des années 80.
Non,
exactement, pas comme ça, quoi.
Alors aujourd'hui, donc, nouvelle édition du Chant de la Machine, c'est un livre culte, une BD culte que vous connaissez, j'imagine, Mathias Cousin, donc, au dessin, et puis David Blow qui est... Le héros, la tête pensante du duo, vous connaissiez
Tout à fait, oui, je l'ai à la maison. J'ai la même à la maison. C'est pas cette édition-là, moi j'ai la deuxième édition, je m'en étais servi, comme je disais, pour ma thèse.
Pour votre thèse, ouais.
Puis évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse, et puis toute la French Touch, tout ça, j'ai commencé la musique alors qu'il y avait tout ce truc qui arrivait, Cassius... Château Flight, etc. Enfin, ouais, donc c'est sûr que... Et puis Daft Punk, évidemment.
Alors, on retrouve vraiment toute l'histoire depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, hein, de ce que pouvait être donc la house music et les musiques électroniques. Qu'est-ce qu'il fallait ajouter aujourd'hui dans la post-face, en fait?
Eh ben, c'est ça, la BD s'arrête. Elle est un peu en gueule de bois, la bande dessinée. Bon, en plus, Mathias Cousin, un dessinateur, qui tête pensante. Mathias était extrêmement tête pensante. Je me permets de le rappeler. Je suis pas arrivé avec un scénario écrit. Il y a plein de pages, c'est Mathias, c'est une collaboration. C'était vraiment un de mes meilleurs amis. On était très proche. On le voit un peu, vous l'avez cité tout à l'heure. Donc, on voit notre amitié dans le film Eden de
Me Hansen Love. Vincent McCain
joue votre rôle. Il s'appelle pas David, mais c'est moi. Il y a des scènes tournée dans mon appartement, et il y a Romain Colinca qui joue Mathias Cousin, qui lui ressemble beaucoup physiquement, ce qui a été très troublant d'ailleurs, quand je fais une parenthèse, quand ils ont tourné, Mia a tourné les scènes chez moi, où on reconstitue...
Vous êtes en train de regarder un film, Showgirls?
Ben oui, on regarde tout est dans, avec les Daft Punk chez moi, c'est-à-dire que je retrouvais...
C'est dingue, une sorte de mise en abîme.
Mais surtout chez moi, parce que moi j'avais le petit, dans ma chambre, ça se tournait au salon, et moi je voyais sur un petit écran ce qui se passait dans ma chambre, avec des gens qui étaient censés être mes amis d'il y a 20 ans, qui étaient dans, encore dans mon salon, on recrée, donc ça, oui, au niveau méta, c'était assez puissant. Bref, il y a eu une petite gueule de bois un peu post, mais c'est normal, c'est un truc de génération, on arrive à la trentaine, il y a un truc un peu French Touch, il y a quelque chose de dingue, on s'est retrouvé à faire des soirées entre 25 et 30 ans à l'autre bout du monde, de manière complète, jusqu'à Playboy Mansion, l'Australie, machin.
Lundi, on recevait Boombas ici, qui nous a raconté, enfin, il suffit de lire son livre, son autobiographie, qui nous a raconté toutes ces années, en effet, absolument délirantes dans le monde entier, des soirées à Ibiza, enfin, j'en passe, sous influence et compagnie.
Oui. Et donc il a fallu, lui il a l'idée, bon la BD on l'a pas touchée hein, de toute façon, elle raconte cette histoire, mais après oui j'ai écrit un texte où j'ai essayé de voir un petit peu quelles ont été les tendances, on l'a abordé là, mais c'est ce que tu dis, en fait ce qui ne change pas, ce qui change c'est les manières de faire, la manière d'écouter, c'est les médias, j'ai pas le terme exact, mais c'est pas dans l'art véritablement que dans la manière de faire, ça amènera des transformations de l'art hein, très franchement, mais on n'écoute plus la musique de la même manière, on ne travaille plus la musique de la même manière, c'est ce que tu viens de dire, et ça a permis quoi, par exemple, la domination, l'hégémonie anglo-saxonne qui était vraiment omniprésente quand on a grandi, ou la culture de son pays avec des quotas pour les aider artificiellement d'ailleurs, mais c'était l'hégémonie anglo-saxonne, là elle est sacrément remise en cause. Si on voit le type leader du streaming sur un réseau qui fait beaucoup de mal à la musique, je ne veux pas citer, mais c'est Bad Bunny, il est portoricain. Et les trois premiers sont vraiment, peuvent être des gens à l'autre bout du monde, et ça c'est très 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 nouveau qu'on ait une culture globale. La langue anglaise reste très importante, mais la part de... Alors les Anglais n'en parlons même pas, c'est un écroulement depuis 30 ans hein, en musique, par rapport aux années où il y avait Bowie, Elton John, U2, je peux les citer comme ça, les gens, ça on peut pas dire qu'ils continuent pas à produire des choses passionnantes, hein, mais ils ont beaucoup moins, à part Ed Sheeran ou tout ça, ils ne trustent plus du tout les charts.
Il n'y a plus de leadership en fait.
Non, il n'y a plus de leadership anglais, les Américains restent énormes, mais ce qui se passe en Amérique du Sud est monumental au niveau des ventes, ce qui se passe en Afrique se traduit pas forcément encore en ventes colossales, mais ça va le devenir, vraiment il y a une culture globale et Internet a vraiment permis ça. Donc les médias, les moyens, les manières... On parlait hors antenne de TikTok, on peut s'en manquer, mais il se crée des choses nouvelles sur TikTok dans la manière de créer la musique, dans la manière de la recevoir. Donc c'est plus ça qui a changé et c'est passionnant. Qu'est-ce que ça va nous amener après? On verra, mais on est en train de... Aussi, par ailleurs, ce que je dis un peu dans le... Je mélange un peu tout, je suis désolé,
mais avant,
on était très vertical, il fallait que... Et je trouvais ça bien aussi, d'ailleurs, ça manque un peu aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de musique qui sort que le filtre de la maison de disque n'existe plus comme avant. Bon, c'était mauvais, on le critiquait, on voit aussi que ça avait des bons côtés, parce qu'il y avait pas autant de musique que ça. Mais aujourd'hui, avant, c'était très vertical. L'artiste star, le Bowie ou le Prince donnait le là avec la maison disque, il impose et vous êtes au bout de la chaîne et c'était génial. Hein. Bon, là aujourd'hui c'est fini ça, la verticalité elle est complètement disparue, tout ça est pour moi beaucoup plus horizontal et les gens sont un peu d'égo à égo et puis et le succès se fait de manière très bizarre. On parlait hors antenne d'un ami Ayan qui s'est mis à cartonner via un morceau sur TikTok qu'il avait fait il y a quelques années. Bon d'un coup il peut faire des concerts où il y a plein de jeunes qui viennent voir parce qu'ils ont entendu son morceau sur TikTok, c'est très très étonnant et très surprenant. Quoi.
Quand vous avez relu, j'imagine parce que vous l'avez encore relu, cette BD, même si vous ne pouviez rien changer. Est-ce qu'il y a une époque plus particulièrement qui vous a intéressé avec le recul aujourd'hui?
Moi, je continue à être fasciné par ce que je n'ai pas vécu. La BD, on l'a sortie en deux parties l'époque, aux éditions Delcourt. Il y avait la première partie, c'est ce qu'on n'avait pas vécu. Ça s'arrêtait en 87-88. La deuxième, c'était le début des rêves, ce qu'on avait vécu avec Mathias. Et le ton est très différent. C'est vrai.
Et le dessin est très différent.
Et le dessin est très différent.
Il y avait un côté très crumb pour la première partie. Et un côté un peu moins crumb pour la deuxième.
Il s'est affirmé, passait par des phases linéaires, puis à la fin, c'est complètement débridé. Mathias avait une personnalité assez forte aussi, mais graphiquement, on part vraiment dans des lignes vraiment d'épuration. Les gens comprennent pas. D'ailleurs, des fois, les gens croient qu'il est malade au dernier chapitre.
Non, c'est super.
C'est une volonté. Hein. Ouais. Mais quand on raconte ce qu'on a vécu, oui, il y a un peu plus de gueule de bois. Donc, ce qui me fascine, continuera à me fasciner toujours, même si je passe pas ma vie à m'enquêter là-dessus, mais ce qui se passe dans les années 50, 60, 70, dès qu'on me raconte un club dans un endroit, il y a toujours des histoires tellement géniales. Machin est arrivé à telle heure, dans tel club, dans tel truc. Les lieux sont beaux, les lieux sont intéressants, les lieux ont des choses à dire aussi. Ça continue à me passionner.
Ça, j'avais commencé à faire quelque chose d'ailleurs à New York. Je m'étais approché d'une société de préservation du patrimoine, qui, aux États-Unis, c'est pas vraiment une idée très forte dans leur façon de penser la société. Et j'avais commencé à faire le tour de tous les clubs historiques de la ville de New York, en fait, en me prenant en photo et en essayant de faire l'historique du building.
Ils ont tous disparu.
Ah oui, ils sont tous devenus soit parking. bureau, enfin, ou même complètement rasé, quoi. Ouais. Ça, c'est intéressant, je pense, parce que ça reste des marqueurs d'une ville, les clubs. On l'oublie, surtout en France, on a tendance à vraiment plutôt mépriser même un peu les discothèques, quoi. Mmh. Voilà, c'est des limonadiers. Mmh. Il y en a beaucoup, mais c'est quand même des lieux de création aussi.
Bien sûr. Ouais. Ouais. Vous, qu'est-ce qui vous avait marqué, Yann, quand vous aviez lu à l'époque Le Chant de la Machine? Est-ce qu'il y avait une époque ou un personnage qui vous avait plus particulièrement troublé?
Ah, moi, c'est Mancuso, David Mancuso, je trouve ça un personnage.
Alors pour les auditeurs, il faut resituer.
C'est le créateur du Loft, c'était des sortes de soirées privées, en fait, un club privé.
Dans son appartement.
Ouais, dans son Loft. Ouais,
dans son Loft. Dans son Loft.
Et donc, il y a eu plusieurs adresses. Je crois qu'il y avait une sorte de ponche au LSD à l'entrée. Et il mixait des, et en fait, c'était un audiophile, c'est-à-dire qu'il avait des enceintes Clipshorn qui étaient incroyables. Voilà, donc je crois qu'il passait les morceaux du début à la fin.
Il mixait pas. J'ai lu une interview quand je fais des enquêtes sur Chant de la Machine. Je connais pas ce David Mancuso, je le connais à peine. On dit son nom, mais, et puis je vois une interview de lui, il dit, j'ai arrêté de mixer en 1983. Et moi, la phrase, qu'est-ce que c'est que ce délire? La techno n'existe pas encore, que le mec a déjà arrêté de mixer. Donc, à 83, Mancuso, alors moi, depuis, je l'ai rencontré quand on a fait Le Chant de la Machine, et c'est vrai, bon, il est décédé il n'y a pas si longtemps, c'est vraiment le DJ des DJ, le parrain des DJ, des gens comme Larry Levan ou Frankie Knuckles, qui vont faire la house music, ont débuté au Loft de David Mancuso. J'ai mille histoires à vous raconter sur ce bonhomme. J'ai une histoire, c'est un enfant, en fait, ce type. À 70 ans, je me trimballe avec lui, on passe le cours carré du Louvre, et je vois David Mancuso courir aux quatre extrémités. Pour clapper des mains, parce que l'acoustique, il arrive chez moi, la première chose qu'il me dit, very good acoustique. Je l'amène chez un ami, le premier truc, au bout de 5 minutes, on se retourne, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de démonter sa platine pour bien remettre, pour faire en sorte d'écouter. Quand on faisait les soirées respect ou été d'amour avec David Mancuso, il venait la veille, ce qu'aucun DJ au monde fait, pour refaire tous les branchements, et il se trimballe avec un vue-mètre pour que le son soit pas trop fort, parce que pour lui, c'est très important que le son ne soit pas trop fort. Si vous connaissez un DJ qui se trimballe avec un vue-mètre, vous me l'amenez.
On retrouve tout ça dans Le Chant de la Machine, aux éditions Alia. On va se quitter avec Les Sparks, ça vous va comme programmation? Merci. We Love Each Other So Much, un extrait de la BO du film Annette de Léo Scarrax.
We love each other so much. We love each other so much. We're scoffing at logic. This wasn't the plan. We love each other so much.
We love each other so much. We love each other.
Côté club, et bien voilà, c'est déjà fini sur le lyrisme des Sparks. La semaine est passée trop vite. Merci Yann Wagner.
Merci beaucoup.
Couleur Chaos, troisième album. Les dates, 10 septembre, Fête de l'Humanité, 24 novembre à Paris, la Maroquinerie, 25 à Nantes et le 19 février à Besançon, juste pour Marion Guilbeault. David Blo, Le Chant de la Machine, nouvelle édition aux éditions Alia. Merci à vous. Et Gilbert, c'est son premier album, On danse comme des fous sous le label Versatile. Quel titre. Ça, c'était pour aujourd'hui. On se retrouve lundi avec...
Ray Charles, à ce moment, exactement à 3 minutes 57 du morceau, nous indique qu'il a, je cite, des puces aux couilles. On écoute tout de suite.
Oh, c'est honteux. il est plus en couille.
Tu viens tuer la chanson, non, Thomas. Non.
Ce sera honteux, ce sera lamentable avec Thomas VDB lundi pour son nouveau spectacle Thomas VDB s'acclimate. À ses côtés, David Lafort, nouvel album La tête contre les murs avec un titre en live dans l'émission Rien que pour nous. Et bien côté club, c'est l'équipe du soir. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Adèle Caglar, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic sont les trois mousquetaires de la programmation. Et merci à Valentine Chedebois pour les playlists. Côté club, on ferme. Bon week-end, que la musique soit avec vous.